Si vous voulez bien vous asseoir, on va reprendre la deuxième partie de cette matinée avec une communication de M. Didier Davin, qui, il y a 2 ans, a soutenu une remarquable thèse sur la poésie bouddhique sous la direction de M. Jean-Noël Robert et qui est actuellement maître de conférence à l'Institut national de la littérature japonaise, dont vous avez ce matin entendu la communication de M. Imanishi, qui en est le directeur. Donc Didier Davin va nous parler de ce qu'on appelle les koan, les prêches et la poésie de l'école Rinzai.
Merci. Je voudrais d'abord remercier M. Robert et tous les organisateurs de m'avoir fait l'honneur de venir. C'est vraiment un colloque très particulier, même pour des gens qui, comme moi, n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer Bernard Franck. Parmi les nombreux apports des travaux de Bernard Franck figure en bonne place, il nous semble, la remise en cause de la distinction entre un bouddhisme savant et des croyances populaires. Les exposés précédents l'ont déjà amplement démontré. Et s'il ne fut pas le seul à souligner ce point, il a grandement contribué à familiariser le public francophone avec l'idée qu'il fallait se méfier de ces barrières conceptuelles. Bien que ceci constitue aujourd'hui une évidence dans le monde de la recherche, et bien plus encore parmi ceux qui ont connu l'œuvre de Bernard Franck, cela ne signifie pas pour autant que cet éclairage ait perdu de sa pertinence, et il demeure possible d'aborder avec profit des aspects de l'histoire de la pensée sous l'angle du rapport entre une élite détentrice d'un type de savoir et une population, à condition bien sûr de savoir dépasser cette opposition. Ceci, très certainement, pourrait être appliqué pour toutes les écoles du bouddhisme japonais, mais nous nous pencherons ici sur une seule d'entre elles, l'école Rinzai. Les doctrines du Zen ne sont pas fondamentalement, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, très complexes, et comparées à celles d'autres écoles, comme par exemple le Tendai ou le Shingon, elles pourraient presque paraître simplistes. Ces 3 écoles, mais il y en a d'autres bien sûr, postulent toutes que nous pouvons atteindre l'éveil dans cette vie, que nous sommes déjà égaux au Bouddha, mais ce sont les justifications de cette égalité et surtout les modalités de son actualisation qui diffèrent grandement. Là où les écoles Tendai et Shingon développèrent des systèmes doctrinaux élaborés, qui allaient en se complexifiant davantage au fil des époques et des débats savants, le Zen Rinzai avançait l'absolue nécessité de comprendre par soi-même, sans passer par le recours au raisonnement, cette identité fondamentale, et se méfier donc des exposés doctrinaux explicites. Bien qu'il existe cependant des textes dont la nature est assez proche de traités doctrinaux, l'enseignement des moines est notifié avant tout dans des recueils de propos. La raison en est simple, puisque l'expérience qu'exige le Zen de ses adeptes ne peut se faire que sous la direction directe d'un maître, les divers outils doctrinaux élaborés par l'école sont considérés comme de simples accessoires, utiles mais secondaires. L'essentiel du corpus de l'école est donc constitué de textes qui se présentent comme les témoignages que les générations de pratiquants ont eu de cette expérience. On parle bien sûr des discours, il n'est pas question de réalité de cette expérience ou quoi que ce soit. Presque tous les sermons des maîtres qui sont par ailleurs présents dans ces textes tournent autour des récits, des divers éveils ou des dialogues par lesquels les moines tentent d'y parvenir. Si l'on accepte la branche Shōichi, qui intégra l'ésotérisme au cœur de ses conceptions, mais dont l'influence s'amenuisa relativement rapidement, et les quelques poches où la terre pure était intégrée au système doctrinal, là encore, quand on regarde l'ensemble, qui sont vraiment peu nombreuses, la pratique du Zen Rinzai était et est toujours centrée presque exclusivement sur les koans, c'est-à-dire, en simplifiant un peu, sur la compréhension intuitive d'extraits de ces dialogues ou récits, compréhension qui ne devait pas passer par la voie de la raison. Depuis l'arrivée du Zen au Japon, une distinction s'est établie entre la transmission dite d'esprit à esprit, qui doit aboutir donc, par des chemins extérieurs à la raison à l'éveil du pratiquant, et les enseignements présents dans les divers textes du bouddhisme. La branche qui longtemps occupa le devant de la scène de l'école, Rinzai au Japon, dont celle de Musō Sōseki, adopta elle aussi cette position. Bien que la nécessité de parvenir à l'éveil par la pratique des koans n'était nullement remise en cause, l'enseignement des doctrines, telles qu'elles sont exposées dans les sutras et les traités, était accepté à l'attention de ceux pour qui la confrontation directe avec les koans était trop ardue, c'est-à-dire en fait l'immense majorité des pratiquants, moines comme des laïcs. Cette position permettait de plus de concilier une pratique élitiste, nécessitant une ascèse à temps plein, et la diffusion d'un enseignement plus adapté à la société laïque. Le recueil de dialogues en rêve de Musō Sōseki, c'est un ouvrage destiné à l'édification du jeune Ashikaga Tadayoshi, qui était donc le frère du premier shogun Takaoji, et la brillante mise en application de cette distinction. Le rapport entre un enseignement par la seule pratique et celui s'appuyant sur des doctrines transmises par des textes, imprègne à la fois les questions, qui reflètent donc les préoccupations des laïcs de l'époque, et les réponses à travers lesquelles peut se lire la pensée de Mousson. D'un côté donc, un enseignement réservé à une poignée, de l'autre, des expédients salvifiques, Robin, pour contenter ceux qui, par manque de capacité ou par leur place dans la société, ne peuvent pas prétendre à ce niveau, avec comme très souvent dans le bouddhisme du grand véhicule la nécessité de dépasser, en fin de compte, cette opposition, bien, et là encore c'est très souvent dans le véhicule, ce dépassement ne soit accessible qu'aux premiers, qu'à ceux qui ont véritablement atteint l'éveil. Ce n'est pas un dépassement qui marche dans les deux sens. Que ce soit du point de vue de l'influence politique ou des conceptions doctrinales, Mousseau peut être considéré comme la grande figure du Zen Insight de la seconde moitié de l'époque Kamakura. Cependant, une branche de l'école rejeta la possibilité de concilier, même en les hiérarchisant, une approche centrée sur les seuls koans et une autre s'appuyant sur les enseignements textuels. Celle du moine Chuo Myocho, plus connu par son titre de maître national Daito. Pour ce dernier, les expériences salvifiques ont certes été utilisées par le Bouddha lui-même, mais ce n'était, selon une métaphore célèbre, que pour faire cesser les pleurs des nourrissons. Et ils ne sauraient trouver leur place dans l'école d'Inzai. Bien que Daito ait reçu les faveurs de deux empereurs et d'un shogun, son influence au sein de l'école d'Inzai fut limitée comparativement à celle de Mousseau. Elle fut donc limitée aux deux temples qui, par la suite, abritaient ses disciples, le Daitokuji et le Myoshinji. Cependant, à la fin de l'époque Monomachi, des changements profonds que connut la société japonaise, ainsi que les contingences prompres au temple de la branche de Daito, modifièrent considérablement cette hiérarchie. Peu à peu, le Myoshinji prit une importance grandissante, et de nos jours, l'intégralité des lignées spirituelles qui perdurent à l'école d'Inzai se rattache au moine Hakuin, l'Inzai et l'école Obaku aussi d'ailleurs. Et donc le moine Hakuin qui appartient à la branche du Myoshinji. Donc en résumé, la branche qui prônait une pratique fondée exclusivement sur les koans, qui refusait d'avoir un recours aux enseignements textuels, est devenue la seule représentante du Zen Inzai. C'est en ayant ceci en tête qu'il convient de se poser la question de comment envisager, avec un postulat si intransigeant, la relation avec la société laïque du point de vue de l'enseignement. Que dire à ceux qui ne vont pas se lancer dans la pratique des koans et n'ont donc pas la possibilité de faire l'expérience dite indispensable de l'éveil? La première réponse, la plus simple et qui fut historiquement appliquée dans un premier temps, consiste à ne pas avoir de relation du tout, à limiter les rapports à des liens politiques avec l'élite sans se soucier de véritablement transmettre un enseignement. On peut bien, à la rigueur, discuter avec un empereur par-ci, un seigneur par-là, de temps en temps, mais fondamentalement, le prestige et l'érudition des moines, leur apport culturel, suffit à justifier leur place élevée dans la société et les revenus que les puissants leur prodiguent. Plus largement, c'est-à-dire au-delà de la seule branche de Daito, l'école Linzai ne s'est longtemps que très peu souciée de diffuser son enseignement en dehors de l'enceinte des temples. Il y eut certes, un peu comme en Chine, des relations avec l'élite cultivée, mais cela ne concernait qu'un nombre très limité de personnes. Les dialogues en rêve de Mousseau sont bien à destination des laïcs, mais ils sont avant tout à destination du fils d'une grande famille dirigeante. Pour autant que nous sachions, il fallut attendre la fin de l'époque des Monomachi pour voir les moines s'intéresser à des laïcs n'appartenant ni à la noblesse ni à la classe des guerriers. Plus qu'une soudaine vocation à l'édification des masses populaires, ce changement de direction est dû en grande partie aux évolutions de la société japonaise. La noblesse de cour et les guerriers, sur qui s'était jusque-là appuyée l'école, étaient de plus en plus affaiblis par des guerres civiles incessantes et voyaient leur pouvoir politique et financier considérablement réduit. Alors que dans le même temps, une classe marchande de plus en plus riche émergeait. C'est dans ce contexte que le moine Yōsō Sōi, qui vécut de 1376 à 1468, qui était alors supérieur du Daitokuji, demanda et obtint, en 1431, de ne plus faire partie du système dit des cinq montagnes, qui plaçait une grande partie des temples de l'école Linzai sur la protection financière, mais aussi sous la tutelle du gouvernement shogunal. Les raisons de cette émancipation sont complexes, et nous ne les aborderons pas ici, mais le Daitokuji, malgré des liens encore forts avec le pouvoir, gagna sa liberté en perdant un précieux soutien financier. Pour garantir au temple sa stabilité, Yōsō se tourna vers la nouvelle classe émergente, en particulier dans la ville de Sakai, ville portuaire, par où transitaient de nombreuses marchandises et qui constituait un espace de prospérité dans ces temps difficiles. Se tournant vers cette nouvelle clientèle illustre le début d'un important changement qui allait en s'intensifiant, la création de liens avec une population jusque-là peu considérée par les moines. Mais qu'offrir à cette population? Que proposer en échange de son soutien? Pas de terre pure à promettre, de rituel efficace ou de sutra à mettre en avant. Non pas que tout ceci soit incompatible avec les pratiques de l'école, et d'ailleurs ça avait lieu, mais tout simplement parce que sur ces créneaux-là, le marché était déjà occupé par d'autres écoles. On n'avait pas besoin d'avoir le zen si on voulait un enseignement sur la terre pure. Le zen en particulier, celui de la branche de Daito, donc le plus intransigeant, n'avait pas grand-chose d'autre à proposer que l'accès au cœur même de son enseignement. Il serait sans doute imprudent de donner une date précise à ce tournant et de faire, comme nous le faisons néanmoins un petit peu, de Yōsō son seul instigateur. Cependant, c'est à lui que mène une des plus anciennes traces que l'on peut trouver d'un enseignement du zen vers une large population. Elle se trouve dans le Jikaishu, donc un recueil de poèmes accompagné de textes en prose, dans lequel son condisciple cadet, Ikkyu Sojun, le critique très violemment. Il s'agirait, si l'on en croit ce qu'écrit Ikkyu, d'un texte composé suite à la lecture d'un placard vilipendant les nouvelles pratiques de Yosō. Ce placard, tel qu'il est rapporté, nous dit « On rapporte que le révérend Yosō enseigne depuis 14 ou 15 ans à des nonnes et des marchands des cas anciens accompagnés de caractères en syllabaire et leur fait ainsi obtenir la loi. On voit aujourd'hui des comédiens et des récitants aveugles qui se vantent indûment, comme s'ils avaient reçu la voix, en disant « Comme j'ai pratiqué sur l'histoire de l'enfer, c'est un Coran, je descendrai en enfer. » Ça fait référence à l'histoire de ce qui est dans ce Coran. « Venez pratiquer sous ma direction. » Quant à ces nonnes, étrangement, elles ont le Coran du cyprès dans le jardin et se ghostent en disant « Et vous, vous en êtes encore vous affairez sur celui de l'eau de la rivière de l'Ouest. » Elles prétendent avoir obtenu la loi. Cette engeance foisonne parmi les nonnes des cinq montagnes. Il y a parmi les nonnes certaines qui abordent cela. Bien que présenté comme un écrit rapporté, ce texte, que l'on ne connaît que par le Jikaishu, est pleinement approuvé par Ikkyu, et on peut même le soupçonner d'être en fait de sa main. Il y a plusieurs facettes à la critique d'Ikkyu, il conviendrait, pour bien faire, d'examiner les raisons pour lesquelles le syllabaire japonais est ici décrié, le rapport avec la langue japonaise est bien sûr très intéressant, le mépris ouvertement affiché envers certaines couches de la population, certaines professions, envers les femmes, etc., mais nous nous égarerions. Nous retiendrons deux choses ici. D'abord que la pratique des koans était au cœur de l'enseignement prodigué à ces nouveaux adeptes, et la deuxième chose, c'est que cela n'emportait pas du tout l'assentiment général. Le Jikaishu continue un témoignage précieux, et il est pour cela cité par la plupart de ceux qui se penchent sur l'histoire de la pensée du Zen au Japon, et en particulier sur la période allant de la fin de Monomachi jusqu'à la réforme de l'école conduite par Hakuin. Les chercheurs qui se penchent sur cette époque ne sont pas si nombreux que ça, ceci dit. Je me suis perdu. C'est à cette époque, donc a pour le moins mauvaise presse, et la tonalité négative donnée par le Jikaishu sera suivie pratiquement jusqu'à nos jours. Suzuki Daisetsu, pour donner un exemple presque récent, parle avec dépit de cette période de déchéance. Il est en fait difficile de connaître les détails de ce que fut vraiment l'enseignement de Yosō, car les rares sources qui le concernent ne sont guère précises. Plusieurs indices laissent néanmoins penser que c'est bien avec lui que débuta une nouvelle approche des koans. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le moine Chōndōkai de l'école Zen Obaku, qui est une nouvelle école qui est née au Japon de la réimportation du Zen Linzai au XVIIe siècle, décrit dans un passage lui aussi régulièrement cité de son ouvrage, donc l'aiguille pointant vers le midi dans la mer de brouillard, les erreurs de l'école Linzai japonaise. Je ne lis pas tout, hein, naturellement. Dans ce pays, depuis 200 ans, les deux écoles Linzai et Soto, rassemblant les commentaires et les glosses que les anciens vénérables du Japon ont apposées sur les koans des maîtres et patriarches, ont établi des listes de cas à pratiquer. Je saute. Le sens de ces commentaires et glosses n'atteint pas la compréhension complète. Sur ce que laissèrent les anciens vénérables, ils ne font que plaquer des formules sur leur part originelle, Rombun, ou bien des formules d'actualisation, Genjo, qu'ils ont péniblement apprises de leur maître. Je m'arrête là. Ce texte ne constitue pas une preuve supplémentaire du rôle de pionnier du Yosō, puisqu'il s'appuie sur le Jikaishu. Mais il montre cependant que l'idée d'un déclin amorcé avec lui perdura bien après les attaques d'Ikkyu. Il conviendrait tout de même de nuancer ce sombre tableau. Tout d'abord, pas plus qu'Ikkyu, Chōn ne parle d'un point de vue neutre. Et en critiquant ainsi l'école Linzai, il justifie l'existence d'une autre école, la sienne, qui dans les grands principes, propose le même enseignement. En faisant de Yosō le fossoyeur de l'école au Japon, il donne à l'existence de la nouvelle école Obaku une justification, la même chose, mais en mieux conservée, préservée des errements proprement japonais. Mais ce qui doit être ici retenu, c'est la sévérité du regard porté sur la pratique de l'époque et l'idée que cette pratique est une dénaturation d'un enseignement par ailleurs éminemment respectable. Or, ce sévère diagnostic n'est pas le seul fait de Chōn, ni de la seule école Obaku. Certes, les complaintes sur la décadence d'une tradition, quelle qu'elle soit, sont une des grandes constantes des productions écrites de l'humanité, mais il s'agit ici, pensons-nous, d'un peu plus que cela. La question qui nous semble intéressante à poser est celle de savoir qui sont ceux qui s'attachent aussi sottement à ces commentaires qu'ils ignorent être sans valeur. Nous ne prétendons pas ici vraiment y répondre, mais il me semble que la déchéance dénoncée est étroitement liée à la question du rapport des moines avec les laïcs. Pour le dire un peu brutalement, on peut se demander si, pour se tourner vers une large population, l'école Linzai n'a pas mis à la disposition de ses multiples patrons quelques marchepieds rendant son enseignement un peu moins inaccessible à la raison. Nous ne faisons que poser une hypothèse de réflexion, mais pour laquelle il existe tout de même quelques arguments. La pratique des koans se fait, du moins pour la période qui nous occupe ici, dans le secret d'un entretien où maître et disciple sont les seuls à savoir ce qui se dit. Il existe cependant un ensemble de textes qui rapportent avec parfois force détail le déroulé de ces entretiens, les recueils de pratiques intimes mis sans loku. On y lit non seulement les minutes des dialogues par lesquels un disciple expose sa compréhension au maître, mais aussi, bien que de manière très éparse, des détails fort précieux sur les méthodes suivant lesquelles se déroulaient ces entretiens. Excusez-moi. Nous n'entrerons pas ici dans une présentation de ces mis sans loku, mais il nous semble qu'ils permettent de poser, Il s'agit là d'un sentiment qui demande à être renforcé par un examen plus poussé, que l'un des principaux changements que le zen né, de la fin de l'époque, né à la fin de l'époque Muromachi a apporté est l'intégration au sein même de la pratique des koans d'une forme de possibilité d'un recours à la raison, ce qui en soi est une aberration. On trouve notamment dans ces mises sans locaux une classification dite des huit domaines. Il existe en fait plusieurs variantes de cette dénomination, mais qui désignent à chaque fois les mêmes choses, et qui servent, comme le montrent les travaux d'Ando Yoshinori, à catégoriser d'une part les koans et d'autre part l'attitude que le maître se doit d'adopter face à son disciple. Lorsque l'on regarde les définitions données à certains de ces domaines, on ne peut que constater qu'ils offrent sans ambiguïté, ni plus ni moins que la possibilité de recourir à la raison. On trouve par exemple un domaine dit du bandit, Zoku, qui consiste à dérouter le pratiquant. La préface d'un recueil qui n'a pas de nom, donc c'est la cote 1113 dans le fond Matsugaoka, le définit comme ça. La passe du voleur, troubler le pratiquant, donc c'est le maître, c'est la manière dont le maître doit s'adresser à son disciple. Troubler le pratiquant avec un esprit effrayant, dire le blanc pour le noir pour le rouge pour le bleu pour le jaune et le jaune encore pour le violet, afin de savoir si le pratiquant est détenteur de la grande clairvoyance ou s'il est aveugle. Cette approche est assez cohérente avec l'idée qu'on a d'un koan, l'idée qu'un koan ne doit pas être appréhendé avec la raison et ne va pas à l'encontre des principes énoncés par les maîtres de l'école, donc ceux qui ont théorisé la pratique des koans. Mais d'autres domaines, donc d'autres de ces huit domaines, pourtant, semblent plus conciliants avec l'adepte. Par exemple, le domaine de l'instruction directe, donc Jikishi, qui dans le même texte est défini ainsi, on appelle ainsi ce qui consiste à indiquer directement toute chose, à appeler le Bouddha, une fleur, un bambou, un arbre, et ainsi désigner directement l'élévation dans la loi du Bouddha. Un autre domaine, donc pour le bien des hommes, c'est défini ainsi, donc le fait d'instruire tous les êtres de l'ami de bien, donc l'ami de bien c'est le maître, avec compassion. Cette dernière formulation est ici un peu ambiguë, mais si on regarde l'examen de son usage dans d'autres textes, montre, et sans erreur possible, qu'il s'agit bien d'expliquer de manière claire et rationnelle le sens du koan, plus exactement, parce que l'expression de sens de koan pose problème en elle-même, ce que l'on attend que le pratiquant comprenne. L'étude de ces mises sans locaux, qui a connu de nets progrès ces dernières années, ne lève pas complètement le voile sur ce qu'étaient les modes de pratique du zen, entre la seconde moitié du 15e et la fin du 18e. Mais elle permet d'entrevoir déjà comment une pratique réputée difficile et accessible seulement à une poignée au sein même de la communauté des moines a pu s'ouvrir à une population qui n'avait ni l'éducation auparavant considérée comme indispensable, ni le temps de se consacrer pleinement à la pratique. Dans quelle mesure et avec quelles conséquences cela reste à déterminer, mais on peut y voir une des réponses de l'école d'Inzai au défi que lui posait l'ouverture vers la société. Une réponse sans doute, mais pas la seule, et l'histoire de la pensée du zen dans cette période mal aimée, qui va de Yosu à Hakoin en gros, est aussi l'histoire de la diffusion d'un enseignement vers une population de plus en plus large, et de le dilemme que posait cette diffusion demeurait entier pour toute une partie de la population, pour toutes celles qui n'allaient pas faire la démarche d'aller pratiquer les koans, même facilitées par la nouvelle approche qu'on avait proposée. Et si l'on cite souvent à juste titre, comme la marque de l'ouverture du zen, la naissance des propos de loi en syllabaire japonais, les kanarogo, il ne faut pas oublier que ceux-ci exposaient le plus souvent des doctrines dans un premier temps, donc je parle vraiment du début de l'époque des dos, les choses changent fondamentalement après. Ceci exposait le plus souvent les doctrines fondamentales du bouddhisme et n'offrait qu'un accès limité, voire pas du tout, à ce qui caractérise l'école du zen. Nous nous garderons cependant de généraliser sur l'ensemble de ces textes, car leur étude du point de vue du contenu doctrinal reste à faire. Une autre manière de s'adresser à un large public, quand on est un religieux, est tout simplement de lui parler, c'est-à-dire de prêcher. Dans le zen Linzai, comme dans toutes les écoles, le prêche existait, certes, mais il était à destination des moines et constituait une sorte de cour magistrale qui ne faisait que seconder la pratique des koans. Nous sommes là, nous en avons conscience naturellement, dans un schéma un peu idéalisé, mais qui demeurait cependant l'horizon des moines comme des laïcs. Au début de l'époque d'Edo, c'est vers une population de non-pratiquants que se tournent certains moines. Là encore, nous nous méfierons des généralisations, et nous nous concentrerons sur un exemple qui, bien qu'il ne soit pas représentatif des enseignements du Sen de son temps, est particulièrement éclairant, celui du moine Bankei Yotaku. Bankei a été, d'une certaine manière, redécouvert par Suzuki dans la seconde partie du XXe siècle, et il est connu pour l'originalité de sa pensée, souvent résumée, juste titre, puisque l'expression est de lui-même, par Zen du non-né, Shōzen. Le non-né désigne ici notre nature véritable, notre nature de Bouddha, qui est en nous avant même notre venue au monde, donc d'où le non-né. Bankei insiste sur la présence de cette nature et considère que les efforts faits pour atteindre l'éveil sont inutiles, ce qui concerne naturellement donc la pratique des koans. Ce qui nous intéresse pourtant ici n'est pas tant la pensée de Bankei en elle-même, qui est très intéressante par ailleurs, mais le fait qu'il la propagea très largement à travers des prêches faits à une population très large, dont certains furent couchés par écrit. La lecture de ces derniers nous en apprend naturellement beaucoup sur les conceptions de Bankei, mais aussi sur les préoccupations des différentes parties de la société japonaise. Certaines questions montrent le plus simplement qu'il soit les angoisses et les peines du quotidien, tel est troublé par la peur de l'orage. L'orage faisait sans doute beaucoup plus peur autrefois qu'aujourd'hui, je pense. Tel autre est inconsolable de la perte de son enfant, etc. Il n'est alors pas question de rechercher, en tout cas dans la démarche de la question, sans doute pas question de rechercher une réponse dans le zen en particulier, mais plutôt de consulter un moine dont la réputation, peu importe l'école d'où il vient, fait espérer une réponse apaisante. Cependant, et c'est là que je pense que c'est très différent des Kanarogo, c'est bien en appliquant sa pensée, qui est un peu contre-intuitive, que Banquet répond. Ainsi, à la mère qui, après avoir perdu son enfant, se trouble en voyant d'autres enfants du même âge, il répond « Produire de nombreuses pensées, cela est de votre fait. Dans l'esprit originel, il ne se trouve pas le moindre des divers désirements. Si vous avez foi en ce que je dis, vous serez une personne originellement sans affaires. » On a fait plus consolant. À la touchante requête d'une mère dans le chagrin, Banquet offre une solution qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait pas de concession à sa pensée. Il ne console pas, il ne rassure pas sur la renaissance de l'enfance, qu'on pourrait attendre d'un moine, mais engage la femme qui le consulte à ne plus produire les pensées qui la chagrinent en conformité avec sa conception du zen. Le temps nous contraint à nous limiter à cet exemple, mais il montre, nous l'espérons, une autre façon de présenter l'enseignement du zen à la population. Les prêches de Banquet, qui est contemporain de Chuandokai, donc, qui critiquait l'école Nisei tout à l'heure, se situent au début d'une impulsion qui, alors nouvelle, s'adressait à une population relativement peu instruite, en comparaison avec la clientèle qui était alors celle de l'école, tout en maintenant les spécificités du zen. Dans le cas de Banquet, la question épineuse des koans se règle aisément, du moins en apparence, puisqu'il dit ne pas s'en soucier. La question mériterait cependant d'être creusée, parce que, comme on le sait, d'une part, il fut un temps supérieur du Myo-Shinji, et surtout, il eut des disciples qui lui succédèrent en ayant suivi le cursus classique de l'école. Donc, il a enseigné les koans de manière classique, tout en disant qu'il ne fallait pas s'y attacher. On constate dans la génération suivante que des points doctrinaux nécessitant pour être compris de connaître, au moins dans ses grands principes, la pratique des koans, sont exposés sous des formes diverses, mais de manière assez nette. Les exemples les plus connus sont les peintures de Hakuin ou de Sengai, qui font parfois référence de manière explicite à ceci. Mais Banquet se situe plutôt à une époque où la diffusion de l'enseignement du zen, et là, je précise que la diffusion de l'enseignement du zen est différente de l'influence qu'a pu avoir l'école zen par ailleurs, qui elle est beaucoup plus tôt, apparaît beaucoup plus tôt naturellement, prend véritablement son essor. Et il nous serait difficile de proposer une quelconque conclusion sur les suffrages de considération, donc nous voudrions juste terminer en présentant un dernier mode de diffusion de la pensée de Banquet, la poésie en japonais. Il existe deux recueils qui mettent sa pensée en vers. Le premier intitulé « Poème à chanter en faisant tourner le mortier » Usushiki Uta, qui est un recueil qui est de la main de Banquet lui-même. Il aurait été composé lors de ses jeunes années de pratique au mont Yoshino à la demande de paysans. Ces derniers n'étaient cependant pas en quête d'élévation spirituelle, mais souhaitaient faire une prière pour faire pleuvoir. Et Banquet composa ses poèmes, il plut, il fut admiré. Ces 57 poèmes, avec des variantes selon les manuscrits, concilient l'exposition du zen du non-né, propre à Banquet, donc quelque chose qui est un peu une conception doctrinale qui ne sont pas d'un abord très facile, avec des compositions plus proches de maximes invitant la tempérance. Je donne juste deux exemples. L'ascèse vers le Bouddha, une fois accompli, il n'y a rien qui ne change et l'on n'obtient rien. Donc c'est une application presque directe de sa pensée du Fushōzen. Par contre, la deuxième, par désir d'argent, on jette jusqu'à sa vie une fois jetée, d'argent on n'en veut plus. C'est déjà plus général comme... Un autre recueil de 24 poèmes, des poèmes à chanter en battant le blé, Mugitsuki Uta, et lui s'appuie toujours donc, sur la pensée de Banquet, mais il fut composé par un poète de Haikai, dont on ne connaît pas avec certitude l'identité, qui, après avoir entendu un prêche de Banquet au temple Nyōhōji dans la ville d'Ozu, aurait décidé de mettre ce qu'il avait retenu sous forme de Haikai. Le résultat fut montré à Banquet lui-même, qui n'a ni approuvé ni désavoué ses compositions. Nous n'en donnons qu'un exemple. Le Bouddha, comme ils sont pénibles, tous, dès que nous naissons, nous sommes ce Bouddha. Donc là encore, on est vraiment dans l'illustration presque directe de la pensée de Banquet. La production poétique tournant autour de Banquet demeure modeste, parce qu'elle se limite à ce que je viens de présenter. Mais si l'on se souvient que le moine est contemporain de Basho, que ce dernier suivit avec assiduité les instructions d'un maître de la Myo-Shinji, qu'un de ses disciples a consulté Banquet, que Basho composa des haïkai sur le zen, on comprend vite que la mise en vers du zen non-né ne concerne pas seulement l'histoire de la pensée japonaise, mais aussi celle de la littérature. Plus largement, ce qui est en jeu dans la question qui nous a occupés ici, c'est aussi le rapport entre l'école Zen Linzai et la société japonaise, dont les productions culturelles sont naturellement le reflet. Or, la question du rapport entre le zen et la culture japonaise, une formulation qui fait lever les yeux au ciel de la plupart des chercheurs, recèle de nombreuses choses trappes. Si elle fut largement débattue, il n'est pas exagéré de dire qu'elle fut peu étudiée. La raison est sans doute que, depuis les discours qui lièrent l'essence même de la culture japonaise au zen, le sujet est soit méprisé pour les approximations qu'il a fait naître, et elles sont nombreuses, soit considéré comme une évidence par ceux, de moins en moins nombreux, il est vrai, qui acquiescent à ce discours. La question se complique de plus par l'élément nationaliste qui, à des degrés divers et plus ou moins assumés, ont imprégné cette question, nous parlons au passé, plus par optimisme que par constat. Il nous semble pourtant nécessaire de réinterroger ce lien, mais sans doute sur d'autres bases, et notre conviction est qu'un examen des modes d'enseignement des moines, de la manière dont les laïcs recevaient cet enseignement, se l'approprier, voire influer sur lui, puisqu'il ne faut pas négliger ce point, nous sommes convaincus, constitue une première direction à explorer. Je vous remercie.
Vous êtes le meilleur maître de votre discours. Est-ce que vous pouvez, en quelques phrases, résumer en japonais de... S'il vous plaît.
はい、じゃ日本語でまとめてくださいというちょっと無茶ぶりが今いただきましたんですけども、全く準備してませんので、ちょっと今、どうしようかって焦ってますけども、基本的には私の話というのは、臨済前、僕の、検討したい時期というのは、その室町末期から江戸、前期までの間ですけれども、それは禅が堕落した時期と長い間言われた、時期です。で、どういうふうに堕落したかといいますと、その、純粋になった公安禅が、実はもう、公安の、未三六とかのようなものが、つまり怪盗衆みたいなものが出回ってて、でそれが禅の本質を失ったという、一般的に言われています。で、そこで先ほど次回集を、お見せしましたんですけれども、もう一級の時代から、一級というよりも様相の時代から始まったと、言われています。それは、実は様相の教えどうなったかというのも大変分かりにくいところですけれども、確実に言えるのは、その、悪いイメージがもう長い間続いてて、で17世紀までは、あったというのはもう間違いない、それは、この、向井南進が、証明すると言えるでしょう。しかし、それが堕落かどうかというのとともかく、仮説でありますけれども、その、未三六の中に見ますと、本来、理性を使ってはいけない、なのに、三三六の中には実は理性を、の使い道が、隠れてはいませんけど、出てくるということです。ですからそれを、それが、財形の設計するときに使われたのではないかというふうな、仮説を立ててみました。これから今後の研究に、今後に、期待され、課題にしたいと思っています。その後は、盤景の例を、持って、そのもう一つの、縫合、説法の仕方がありまして、で近世前期には、今までと違って、つまり、武家でも武士でもない、そんなに教育を受けてない、社会層に、新しい設計の仕方が出てきたんで、これはどういうふうになったかということは一つの問題であると思います。で、結論ではないですけども、それが、日本文学に影響を与えたのではないかというふうなことを、これから検討したいというところであります。
はい、すいません。Très bien, c'est parfait.